Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Angel Menendez et Alexandre Layani. Bonjour Angel et Alexandre, et bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte à la tête de l'atelier LAME.
Bonjour.
Bonjour Anne-Charlotte.
Vous avez créé votre atelier en 2013 et vous vous distinguez en étant lauréat de l'Europan 13 sur le site de Bondy. Votre pratique compte aujourd'hui de nombreux projets de logements, bureaux, équipements culturels et architecture commerciale. Vous travaillez à toutes les échelles sur des programmes variés. Je vais vous laisser rapidement la parole et on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, quelles ont été vos études? Alors, on commence par Angel.
Alors, moi, je suis... Bon, déjà, bonjour, hein, un plaisir d'être là avec vous. Je suis espagnol, je suis né à Madrid. Donc, mon parcours démarre à Madrid. C'est vrai que j'ai des parents architectes. Ma mère qui est architecte, mon père qui est architecte. Donc, c'est vrai que je suis né dans un contexte architectural autour de moi. Et donc, dès le début, en fait, j'ai toujours été passionné par l'espace. On va dire comment travailler dans l'espace, comment modifier l'espace. Et c'est vrai que, en réfléchissant, l'architecture était un peu le métier qui permet vraiment cette magie de pouvoir le faire. Et surtout, voir un résultat, formellement parlant. Et ça, c'est quand même très reconnaissant, professionnellement parlant. Donc, dès le début, c'est vrai qu'en Espagne, l'architecture, c'est très technique, hein, ça se rapproche beaucoup de l'ingénierie. Et dès le début, on est très axé sur les mathématiques, physique, etc. Et j'ai toujours été passionné par ces métiers-là. Voilà, c'est très technique. Et en même temps, j'ai quand même apprécié cette expérience en France. Hein, j'ai fait une année d'Erasmus en France. Et c'est là que j'ai découvert cette façon de voir les projets qui est un peu différent, un peu plus, on va dire, libre. Qu'en Espagne, qu'on est quand même très axé régulation, technique, etc. Donc c'est ça qui m'a plu en fait de la France.
C'est pour ça que vous êtes resté.
C'est pour ça que je suis resté en partie, oui, en partie, c'est sûr.
Alexandre ?
Oui, moi je suis parisien, donc je suis parti mais je suis revenu. J'ai un parcours assez classique, hein. Je suis rentré en archi après mon bac.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir?
Alors, mon père est architecte aussi, mais c'était pas du tout destiné à se passer comme ça. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout prévu. Je pense que j'y suis un peu allé pour voir, parce que je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien dessiner. Bah, je pense que j'ai eu inconsciemment quand même une sensibilisation à l'architecture depuis que j'étais tout petit, à travers les voyages, notamment avec mes parents. Et puis, j'y suis allé un peu pour voir, je savais pas trop quoi faire, mais un peu à reculons. Et en fait, très vite, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je faisais tous les jours, qui me plaisait beaucoup, ce qui m'était jamais arrivé avant au lycée ou au collège, et où j'étais surtout très à l'aise. Et voilà.
Pourquoi se compliquer la vie quand on est bien dans quelque chose?
Exactement. Et puis voilà, même avec un rythme très soutenu, comme on peut en avoir en archi, en première année notamment, beaucoup de passion dès le début, et voilà, j'ai beaucoup aimé.
Paris-la-Villette, il me semble.
Paris-la-Villette, oui, tout à fait. Après, j'ai enchaîné avec ma HMO, je l'ai fait à Singapour, mais toujours à Paris-la-Villette pour la soutenance.
Et à Singapour, dans une agence singapourienne?
Dans une agence singapourienne, enfin dans une agence à Paris qui avait gagné un gros concours à Singapour, Studio Milou, qui a créé une antenne là-bas. Et donc, j'ai pas mal travaillé pendant mes études, notamment chez eux. Et je suis parti après, voilà, je leur ai demandé si je pouvais aller passer un an là-bas pour faire ma chémo. Donc j'ai passé un an là-bas et je suis revenu à Paris, j'ai rebossé chez eux à Paris en revenant.
Et c'est là où vous vous êtes connus, non?
C'est là où on s'est connus.
Ouais.
Voilà. Effectivement.
Ouais. Moi, je rentrais, Angèle était arrivée chez Studio Milou pendant que j'étais à Singapour. Donc, on avait parlé au téléphone une fois ou deux, puis on a bossé après ensemble un an à Paris.
Sur un projet ou sur plusieurs projets?
Sur deux, trois projets.
Ouais.
Alors, c'est vrai qu'on était surtout axé dans les pôles concours, en fait, c'est Studio Milou, dès le départ. Et donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans la charrette, dans le toujours la pression et la passion pour le concours. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir cette possibilité de travailler tout de suite sur la phase concours, hein, ce qui est la phase la plus belle, on va dire, des conceptions. Et c'est là qu'on a quand même créé notre lien, on va dire.
Ouais, c'était une équipe quand même réduite et il y avait quand même des gros projets, des beaux projets, des très beaux projets.
Oui, donc tout de suite des responsabilités.
Oui, tout de suite des responsabilités et puis tout de suite surtout beaucoup d'investissements. Donc on était jeunes, mais vraiment on nous demandait. On avait toujours tout de suite eu des tâches assez importantes. Voilà, tout de suite dans le grand bain.
Et vous, Angèle, vous aviez d'autres expériences dans d'autres pays que l'Espagne et la France?
Oui, alors moi, c'est vrai que pendant mes études, c'est arrivé la crise de l'immobilier en Espagne, en fait. Ouais. En Espagne, je pense que partout dans le monde, c'était la crise des Lehman Brothers à l'époque.
Oui.
Et en Espagne, on a souffert énormément parce qu'on avait beaucoup construit. Hein. Et j'ai eu des doutes et c'est pour ça que j'ai voulu partir. Je suis parti, j'ai fait une expérience d'un an à Los Angeles, mais j'ai arrêté vraiment mes études. J'étais dans une agence de Los Angeles, qui s'appelle John Friedman, Aliskim Architects. Et puis j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que dans cette agence, pareil, j'étais dans les pôles concours. Donc c'est là, en fait, que j'ai commencé à développer cette envie de créer, surtout à la façon de travailler pour les concours, etc. Que finalement, ça c'était quand même assez proche de la façon de travailler en France, alors que en Espagne, les expériences que j'avais eues des stages, des petits stages, etc., c'était quand même différent. C'était assez drôle de voir que finalement, de l'autre côté de l'Atlantique, ils travaillaient quand même assez proche de la France. Quoi.
D'accord. Et vous préfériez vous ancrer en France plutôt que là-bas?
Disons qu'après cette expérience, j'étais en quatrième année. J'ai fait après mon Erasmus à Grenoble, à l'école de Grenoble. Et c'est là que, bon, évidemment, j'ai créé, j'ai eu des amis, j'ai appris le français là-bas à l'école. Et après, c'est sûr que rester en Europe, c'est quand même plus simple pour la famille. Hein. Il ne faut pas se faire 10 000 km pour les voir. Donc finalement, j'ai préféré quand même rester en Europe, quoi.
Bon. Alors, Studio Milou, et vous décidez de partir ensemble?
Oui, très, très naïvement, je crois.
C'est l'opportunité d'une commande qui...
Ouais, c'est l'opportunité d'une commande qui nous paraissait à l'époque une magnifique et très belle commande. Enfin, ça l'était en tout cas. Mais c'était refaire une brasserie à Paris, une brasserie, tout ce qu'il y a de plus typique. On a un copain qui est venu nous voir un jour. Est-ce qu'il cherche des architectes? Est-ce que vous voulez le faire? Voilà. Donc moi, je vais voir Angèle. Je lui dis, Angèle, opportunité en or. Il faut qu'on y aille et tout. Et voilà. Et on y va. Et on quitte Milou et on monte notre agence pour faire ce projet de manière très naïve, sans savoir ce qu'on allait faire 4 mois après. Mais je pense qu'on se posait même pas trop la question. On s'était dit que c'était bon avec ça, c'était tranquille. Bon, évidemment, pas du tout.
À l'époque, on connaissait pas les charges, les impôts et tout ça.
Non, on a vraiment...
Mais vous avez résisté quand même.
On a très bien résisté. Mais voilà, on a appris vraiment sur le tas, notamment comment gérer une agence, et même une entreprise, j'ai envie de dire. Comment accéder à la commande, la complexité d'accéder à la commande, ce qu'on avait un peu vu en HMO à l'école. Mais là, on y a été vraiment confrontés assez vite. Mais on s'en est pas trop mal sortis.
Oui, parce qu'une fois qu'une commande arrive, il faut déjà anticiper sur une autre. Et parce que le temps du projet
Exactement.
Est très long.
Ouais, voilà.
Qu'il y a des tas de raisons pour qu'un projet puisse s'arrêter.
Et puis voilà, puis une brasserie à Paris, on parle de 6 mois de travail. Donc après,
oui.
Et puis il faut anticiper, en effet. Peut-être qu'on va parler après, mais voilà, l'accès à la commande publique et sa complexité aujourd'hui... on y a été confronté assez vite.
Alors aujourd'hui, vous avez des beaux projets. Hein. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez en sortant de l'école?
Alors effectivement, moi personnellement, je n'attendais pas grand-chose. Hein, parce que comme j'ai dit avant, j'ai fini mes études dans une période où il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dans notre domaine. C'était assez compliqué. J'ai même... à un moment donné douté de me redirectionner vers une autre branche hein, ou autre chose. Donc pour moi déjà, l'effet de pouvoir faire des projets en nom propre, hein, comme en tant que nous les concepteurs, c'est déjà une réussite, hein, c'est sûr. Et après, en plus de ça, pouvoir faire des projets au niveau programmatique qui sont quand même assez enrichissants. Hein. C'est des projets culturels ou des projets vraiment qui donnent des réponses et qui améliorent la vie des habitants, comme voilà, les halles des marchés ou des équipements. C'est très enrichissant et c'est passionnant. Donc pour moi, c'est largement déjà une réussite.
Mmh. Bah oui, pareil. À l'entrée, en tout cas, j'avais aucune attente. À la sortie, je savais que je voulais travailler sur des concours d'équipement et plutôt culturel. J'avais déjà un peu cette envie. J'étais déjà très content de sortir de l'école et d'avoir un boulot direct dans une belle agence qui était Studio Milo. Mais je ne m'attendais pas du tout à en être là aujourd'hui. Alors déjà, avoir 10 ans d'agence en son nom propre avec Angèle et travailler sur des projets sur lesquels on est. Donc
c'est un duo qui marche bien.
Oui, c'est un duo qui marche très bien.
Comme tous les couples, hein, avec des hauts et des bas.
Hein. Ah bah oui, mais ça fait partie de l'histoire. Et pas de reprise d'agence de parents ou...
Non, surtout pas.
Surtout pas.
Non, on a vraiment essayé de faire notre... Enfin, je parle pour moi. Vraiment essayé de faire notre truc tout seul, de notre côté. Déjà parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de faire de l'architecture.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de projets différents.
Et puis peut-être que le métier évolue très rapidement.
Ouais, le métier évolue, puis non, vraiment l'envie de faire un peu son truc tout seul et d'avoir un regard neuf. Voilà. C'est pas pour ça qu'on n'a pas eu de l'aide de manière un peu inconsciente.
Oui, vous avez été pétri de cette culture.
Ouais, voilà.
Ça vous a fait prendre de l'avance.
Ça nous a fait prendre de l'avance. Oui, je pense que ça nous a fait prendre de l'avance.
Et vous êtes retrouvés en complicité, le fait d'avoir eu des pairs architectes, ça a joué ?
Alors je pense, comme vous avez dit, je pense qu'effectivement le métier a clairement évolué. Je pense que nos parents, enfin je parlais pour moi, ils ont vécu dans une période où on construisait, déjà le fait de construire c'était déjà exceptionnel, enfin je pense que la réussite technique, et on ne s'est posé pas forcément plus des questions. Aujourd'hui il y a beaucoup plus des questions, il y a l'environnement, il y a les respects de lieux, les matériaux, etc. Donc c'est vrai que le métier évolue et je pense que nos parents respectifs, ils sont grandi dans vraiment un besoin parce qu'il n'y avait pas assez de logements. En tous les cas, on est en Espagne, hein, il y a 50 ans, on était dans les baby-boom, hein, donc il y avait vraiment un besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait effectivement différemment. Je pense qu'il y a une façon de concevoir l'architecture, qu'il y a beaucoup plus de paramètres et ce n'est pas forcément construire pour construire à vite.
C'est sûr, nous on est beaucoup dans la réhabilitation aujourd'hui notamment. Nos parents, c'est des projets neufs.
Oui, mais en effet, je suis d'accord avec vous. En fait, il y avait quelques grosses agences qui avaient des sujets exceptionnels. Ouais. Il y avait de grands architectes du patrimoine. Ouais. Aujourd'hui, les deux déjà se rencontrent beaucoup plus. Et puis, l'architecture ordinaire, c'était aussi l'ère du parpaing. Ouais. Ça poussait ça, dans tous les sens et un peu n'importe comment. Ouais. Et bah, aujourd'hui, il faut faire... avec toutes les exigences du climat.
Ouais. Oui, surtout que nous, on fait essentiellement comme du marché public, donc, comme a dit Angèle, de l'équipement. Donc, pas du tout, encore une fois, le même secteur que ce que pouvaient faire nos parents respectifs.
Et j'entends que c'est compliqué, je pense, expliquer à quelqu'un qui a 60 ans, 65 ans, l'expliquer comment il faut faire l'architecture, en tous les cas...
Comment tu la vois.
Notre perspective, je pense
Je pense qu'il y a quelque part, il y a eu presque une rupture.
Oui, ouais, effectivement.
Ouais.
Et l'ego comptait beaucoup dans la génération au-dessus de la vôtre.
Oui,
je pense. Et aujourd'hui, vous êtes plus agile, vous travaillez plus en équipe.
On est très collaboratif.
Oui, très collaboratif.
C'est-à-dire qu'on a des, pour des petits projets, on a des équipes avec 5, 6, 7 co-traitants, un peu de tous les domaines. Voilà, le paysagisme, c'est par exemple un domaine sur lequel on. Maintenant, qui est.
Obligatoire.
Qui est obligatoire ou en tout cas grandement demandé et requis. Et c'est vraiment devenu central au cœur des projets. Mais voilà, très collaboratif, on s'entoure d'équipes assez larges, avec pluridisciplinaires, ce qui, je pense, et même, sans parler de nos parents, mais même chez Studio Milou, voilà, on voyait vraiment que il y avait un archi à la tête et qu'il prenait toutes les compétences possibles et il faisait tout lui-même.
On les voit quand on regarde simplement les noms des boîtes d'architecture. À l'époque, c'était toujours les noms. Les noms de l'architecte,
la star.
C'était les stars.
L'archistar.
Aujourd'hui, de moins en moins, on retrouve
même
ça.
Même quand c'était
bonne star. C'est clairement la preuve qu'en quoi, en fait, on est beaucoup plus en équipe, on n'a pas envie forcément de se faire.
D'ailleurs, il y a des pionniers, en tout cas en France, et, comme l'atelier Dupont, Plan 05, ils sont venus, sauf un, mais tous témoigner dans Comme d'Archi. C'est eux qui ont vraiment poussé à prendre des noms qui permettait de regrouper tous les talents, en fait.
Non, et puis on s'y retrouve vraiment. Enfin, dans ce, nous, on est vraiment drivé, pas par la taille du projet ou la surface, on est vraiment drivé par faire le plus beau projet possible, en tout cas, y mettre tout ce qu'on peut, et donc du coup, s'entourer des gens les plus compétents, en tout cas, voilà, de cerveau fait un peu différemment, avec différentes perspectives pour réussir à faire ça.
Alors, pourquoi l'atelier L'Âme ? C'est parce que c'est l'âme, avec l'accent circonflexe. C'est l'âme du bois, c'est...
Ça peut s'entendre comme ça. D'ailleurs, on laisse l'imagination de chaque personne...
Oui, mais vous aviez bien une idée derrière.
À la base, c'était quand même assez simple. À la base, c'est vrai que c'était Delayani et Menendez. On voulait pas trop complexifier le... Mais c'est vrai que l'âme, finalement...
On trouvait que ça sonnait pas mal. Et puis voilà, c'était une manière de réunir nos deux noms avec... Atelier aussi, on y est très attaché.
Oui, le côté façonnage de la main.
Oui, un peu artisanal, atelier de réflexion aussi.
Alors, vous avez déjà bien amorcé, mais je vous propose maintenant de parler de l'histoire de vos projets. Alors, vous commencez avec cette brasserie, et après ?
On commence avec cette brasserie dans le 15e. Et après, on se dit qu'on veut faire la même chose qu'on faisait chez Studio Million, on veut faire du concours, du marché public, de l'équipement culturel, équipement public. Donc là, on découvre un peu...
les réalités du métier.
Les réalités du métier. L'appel d'offres publiques, monter déjà une candidature. Déjà, là, on fait OK, c'est pas si facile que ça. On se rend compte vite qu'on n'a pas de référence.
La fameuse référence.
Voilà, la fameuse
dont
référence.
Dont on parle toujours.
Voilà, qu'il faut trois références similaires au projet de la même taille.
Et de 3 ans maximum.
Et de 3 ans ou 5 ans maximum, voilà. Puis le chiffre d'affaires, et les capacités financières, etc. de l'agence. Bon, évidemment, on n'a rien de tout ça à l'époque. Donc, on part sur des plus petits projets, des petites interventions en marché négocié, où on peut vraiment tout de suite produire un projet. Et que ce ne soit pas juste une sélection de candidatures sur des références, mais qu'on dise, voilà, on va en oral, on a déjà travaillé, on a déjà beaucoup travaillé sur le projet, et on dit, voilà, bon, bah, voilà ce qu'on vous propose. Voilà, et on a gagné avec ça une petite halle de marché à Bouffémont, au nord de Paris. Une petite halle de marché en bois, modulable, qu'on a livrée. Et puis voilà, une référence, deux références, trois références, puis voilà, puis 10 ans après, c'est un peu plus facile.
Vous avez réussi à avoir une commande plus conséquente.
Oui, voilà, c'est des petites, des petits pas, des petits pas. On a commencé avec un projet à, je sais pas, c'était 400 000 euros de travaux. Maintenant, on répond sur des projets à 5 millions. Donc au fur et à mesure, on.
Alors, disons qu'on a, c'est vrai qu'on a démarré. On a commencé tout de suite à faire des appels d'offres. On a vu pendant 2 ans que même si on faisait 50 ou 60, on était retenu sur rien. Et c'est finalement suite à... Je pense que même on était en chantier, qu'en 2019, c'est là qu'on a vraiment passé le cap. On a été retenu sur 6 concours la même année. On a gagné 4. Et c'est là que ça a vraiment décollé, en fait. C'est à partir de cette année-là...
Comme beaucoup d'agences, mais on a beaucoup donc, galéré à être retenu. Et quand on a été retenu sur 4 en une année, on y a mis beaucoup. On les a toutes gagnées. Donc après, il faut transformer les faits. C'est super d'être retenu, mais si on ne gagne pas, malheureusement, les projets non retenus aujourd'hui ils partent aux oubliettes. Donc on a été retenu, ce qui fait que 4 références en plus aussi, qui là ont été livrées ou sont en train d'être livrées.
Après, ça roule maintenant.
Maintenant, on est beaucoup retenu là, cette année, donc ça roule très bien, ouais. Là, c'est...
Alors, des références emblématiques ?
On a, c'est vrai qu'on a eu une petite intervention au Carreau du Temple. C'est un projet qu'on avait fait avec Studio Milou, et la maîtrise d'ouvrage est restée en contact avec nous. Et ils nous ont demandé, c'est un tout petit projet, c'est la rénovation uniquement de tout ce qui est la cafétéria et l'étage.
Espace bar.
Voilà, mais c'est vrai que dès qu'on dit Carreau du Temple, c'est un projet quand même qui est assez... qui a une visibilité quand même assez importante, et c'est vrai que c'est une référence qui est souvent la maîtrise d'ouvrage, ils aiment bien en fait. Et sinon, des projets, bon, je pense que Verrières-les-Buissons.
Qui est en chantier, ouais. Qui est en chantier. En fait, on a quand même beaucoup de projets encore en chantier.
Verrières-les-Buissons, c'est quel
c'est
programme
c'est une médiathèque, une muséo. C'est un programme qui est mélangé. On a une médiathèque sur deux niveaux, c'est 600 mètres carrés. Après, à l'étage, on a une partie muséographique qu'on rénove. Et puis voilà, médiathèque musée. En fait.
C'est la réhabilitation du centre culturel Malraux.
D'accord.
À Verrières-les-Buissons.
À peu près en mètres carrés.
En mètres carrés, je pense qu'on doit avoir 2000 mètres carrés, je crois, à peu près.
Ouais. Mais c'est un beau projet. Et puis pareil, c'est un des premiers où on a été retenu à concourir. On était en face de grosses agences. Donc déjà, on n'y croyait pas trop quand on a été retenu. Puis on a gagné. Donc voilà, après, bon, ça a mis un peu de temps à démarrer le chantier qui a démarré en janvier là. Mais finalement, on a quand même réussi à le faire.
Et vous faites du retail aussi ?
On fait du retail, ouais. Bah justement, la référence du Carreau du Temple dont parlait Angèle, on est vraiment à cheval entre les deux. Effectivement, il y a le côté, on avait déjà travaillé sur le Carreau du Temple avec Studio Milo, qui est assez drôle. Et à côté, on est presque sur l'intervention plus retail, plus...
En fait, nous, on a vécu dans une période chez Studio Milo où l'agence, c'était une agence quand même assez conséquente, et on avait fait le Carreau du Temple, c'était quand même un projet à 35 millions d'euros. Ils avaient fait la Comédie Saint-Étienne, un projet à 25 millions. Et on a vu comment l'agence faisait faillite. L'agence faisait faillite avec des énormes références, alors que...
Avec un nom.
Avec un nom. Et on s'est posé la question, on s'est disait comment c'est possible qu'une agence avec des références si importantes et quand même assez emblématiques fasse faillite. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on soit sur le marché public, c'est ce qui nous passionne en fait, les concours, etc. Mais en même temps, il faut quand même aussi avoir un pied sur quelque chose qui donne quand même à la société une certaine stabilité au niveau financier en fait.
Sans que ça soit purement alimentaire. C'est-à-dire qu'on voulait quand même faire quelque chose qui nous parlait. Et le retail, ça nous a permis de travailler à une autre échelle, plus sur les matériaux je pense, et plus dans le détail surtout. Avec des exigences et en face des maîtres d'ouvrage surtout qui sont archis et qui savent de quoi ils parlent et qui sont très exigeants. Donc voilà, je pense que ça nous a aussi beaucoup apporté.
Ouais, et ça rentre dans les cadres quand même aussi des réhabilitations parce que les retail c'est souvent dans une coque déjà existante. Donc ça c'est aussi c'est en liaison avec le contexte, comprendre le bâtiment, comment il fonctionne, etc.
Et ça va plus vite, ce qui nous a permis de faire beaucoup, beaucoup de boutiques déjà alors qu'on n'a pas fait tant que ça d'équipement.
Vous avez la double casquette.
Oui. Ouais.
Et puis les projets sont quand même plus rémunérateurs.
Oui.
Ouais.
C'est sûr.
Ce qui permet d'assurer un fonds de roulement.
C'est le milieu du.
Non, mais c'est là une réalité. Donc,
oui, c'est clairement. On n'aurait pas pu se permettre de faire autant de candidatures et autant de projets parce qu'en fait, on tirait un peu des deux côtés. On essaie de trouver un équilibre. Avec le marché privé et le marché du luxe qui, évidemment, a moins de problèmes que le marché public.
Alors, en adéquation avec votre génération, très soucieuse des enjeux climatiques, vous arrivez à réussir ce mariage entre cette nécessité de travailler de manière économe et pérenne et les exigences du retail qui est quand même celle de vendre. Est-ce que vous trouvez que vos clients évoluent et que vous arrivez à
alors,
être force de proposition dessus ?
Alors, les clients évoluent, effectivement. Oui. Ce n'est pas pour les défendre, parce que ça reste quand même un domaine qui, évidemment, c'est le profit qui domine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les projets qu'il y en a, ils sont toujours demandés soit en lead, c'est des certificats plutôt américains, mais au moins, il y a une prise de conscience. Je ne sais pas si c'est les investisseurs qui les obligent à les prendre, mais en tous les cas, il y a une prise de conscience. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on essaye toujours de privilégier les artisans, quand même un peu les matériaux locaux, etc., dans nos ouvrages, et des entreprises, quand même, qui on sait, qui travaillent à proximité, en tous les cas, des projets qu'il y en a. Mais c'est vrai que ça a évolué ces dernières années. Il y a quand même, notamment pour les projets fluides et structures, il y a quand même cette label qui empêche certaines choses d'être réalisées, des types de machines, etc.
Ouais, on voit clairement une évolution dans le retail. On n'a pas la main sur tout. On a moins la main, en tout cas, que sur des marchés publics. où là vraiment bah c'est on crée voilà. Après comme l'a dit Angèle, le retail c'est que de la réhabilitation, nous ce qu'on fait pour le retail et pour le marché public, oui bien sûr on a cette prise de conscience mais on l'a eu assez tôt mais on l'a pas trop avec le côté certificat
oui.
Enfin voilà, c'est vraiment, ça vient dès le départ dans le projet. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit le...
De toute façon, toutes les certifications, c'est aussi fait pour... aussi.
C'est de la labellisation.
Oui, voilà.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais nous, on réfléchit plutôt en termes d'orientation, en termes de matériaux, en termes de circuits courts. Voilà.
Vous avez une référence qui cristallise un peu tout ça, en archi-archi?
Ouais, on vient de livrer l'été dernier une halle de marché aux Hôpitaux Neufs, c'est dans le Jura.
Oui.
À la frontière suisse.
Mm-hmm.
On a fait un projet qui essaie de se marier dans le paysage jurassien du village, c'est un petit village.
Mm-hmm.
Où on a travaillé en charpente de bois avec un bois local, avec de la tuile faite localement aussi. Peu de béton et beaucoup de matériaux locaux, beaucoup d'apports de lumière aussi zénitale naturelle, donc pour essayer de baisser un peu les consommations. Avec ces réflexions-là, on a réussi à faire un projet qui est presque autonome.
Oui, pour lequel on a eu des financements. D'ailleurs, quand on présente bois local des rayons de moins de 50 ou 100 km, la maîtrise d'ouvrage, elle a eu des financements pour vraiment travailler avec deux. C'était une des conseils qu'on a fait à la maîtrise d'ouvrage même dès le départ. Hein, et c'est grâce à ça qu'ils ont trouvé quand même des financements, eux, de leur côté. Bon, en plus de ça, évidemment, il y a tout le côté programme. Hein, c'est un projet qui est dédié aux riverains, qu'ils utilisent, qui sont appropriés, qui font des activités. Donc, c'est quand même...
Très polyvalent,
ouais. C'est quand même assez intéressant.
Donc là, vous avez un recul sur une opération livrée.
Oui.
Qui compte pour vous?
Qui compte parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas tant que ça. Hein, on a beaucoup de chantiers en cours.
Ouais.
Mais livrée, pas tant que ça.
Ouais.
Donc oui, qui compte. Ouais, oui.
Les usagers, vous avez des retours?
Oui. Ils sont très contents. Ils ont fait un tableau même de la halle.
Un dessin d'un illustrateur local.
Ouais, non, on a eu plusieurs articles dans la presse locale. Le maire était très content. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on a trouvé une maîtrise d'ouvrage qui était très sympa. Ou je ne sais pas si c'était petit village et les gens ils sont plus, je sais pas, plus simples. Ou plus,
c'était un projet très important pour eux. Hein. C'était vraiment...
Ouais. Mais voilà, y a un très bon rapport. Ils sont très contents. Il nous tient en courant pour s'il y a des autres appels d'offres publics à proximité, il souhaite quand même le faire.
Donc opération réussie.
Opération réussie pour les riverains. Et comme c'est comme ça qu'on définit une opération réussie, on peut dire opération réussie. Ouais.
Est-ce que vous travaillez à l'étranger ou vous en avez l'intention? Avec votre duo cosmopolite, peut-être que ça peut ouvrir des opportunités. Il n'y a pas une histoire en Espagne ou non?
Si. Alors, c'est vrai que mon père, il a une agence à Madrid que, comme j'ai dit, on n'a pas ni des projections de prendre ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on a quelques projets de logement un peu qui, parfois, ils nous demandent de travailler ensemble pour apporter un peu la fraîcheur ou quelque chose qui ont pu apporter des nouveaux. Hein, parce que c'est sûr que la France, ça reste quand même, je pense qu'au niveau architectural, c'est quand même un pays qui a un niveau assez élevé hein, par rapport à ce que je connais dans des autres pays. Donc c'est vrai que parfois on travaille avec eux, mais qu'on fasse conception, parce qu'on sait aussi que les normes...
Ils ne sont pas les mêmes.
Ils sont pas... Enfin, disons qu'au niveau européen, c'est en train de s'harmoniser, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qui est permis de construire, etc. C'est quand même assez différent. Donc on participe à la conception pour quelques ouvrages, mais bon, pour l'instant, on reste essentiellement en France.
Bon, on travaille un peu avec le retail aussi à l'étranger, mais c'est plus dans la conception et dans le dessin. Mais niveau marché public, bon, après l'Espagne, c'est un peu différent parce que j'allais de là-bas, mais on a quand même de plus en plus cette conscience de travailler local. Moi, je me vois pas demain aller à Taïwan faire un musée. On a un territoire, l'échelle territoriale et je pense que la culture aussi française, voilà, les petits territoires, c'est plutôt ce qui nous intéresse maintenant. Et puis, on est clairement dans un secteur qui nous convient très bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'équipement public, l'équipement culturel. En France, c'est déjà assez difficile à appréhender. Je suis pas sûr qu'on ait la maturité aujourd'hui pour aller à l'étranger. Et puis, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Mais bon, après, si on est invité à faire un bel opéra demain, on verra. Mais...
En fait, quand on est... C'est ça qui est drôle. Quand on fait nos études, enfin en tous les cas en Espagne, on n'a pas les techniques à Madrid, et même aussi en France, il demande d'aller ailleurs, faire des voyages pour connaître l'architecture, il est vrai. Et quand on finit nos études, on pense qu'on construit en bois, en béton et en pierre partout dans le monde, ce qui est vrai. Mais finalement, on se rend compte que pour la qualité de l'architecture, c'est aussi dans la connaissance des lieux, dans l'approche de la culture. Et je ne pense pas qu'on soit capable aujourd'hui, en habitant en France, de connaître réellement un pays pour pouvoir faire un ouvrage qui répond aux besoins de la population. Je pense que ça demande vraiment de connaître les gens pour pouvoir faire une vraie réponse d'un projet architectural. Donc finalement, c'est un métier qui est à la fois très international, mais très local en même temps. Donc,
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait construire à Singapour si on allait habiter à Singapour.
Mais d'ailleurs, les grosses agences qui ont des antennes partout dans le monde s'installent souvent.
Tout à fait.
Et prennent des locaux aussi dans les équipes.
Elles s'installent aussi, oui, mais elles s'installent parce que souvent c'est des gros projets aussi. Et que, comme Studio Milieu à Singapour, ils avaient gagné un projet de musée gigantesque. Et du coup, il fallait créer une agence locale, il fallait embaucher 20 personnes. Donc oui, bien sûr. D'ailleurs, Jean-François Milou était parti s'installer à Singapour. Voilà, parce qu'il fallait se dédier complètement à ce projet-là, qui était le plus gros projet de l'agence à l'époque.
Enfin, pour vous, c'est pour l'instant pas le sujet.
Non, c'est pas le sujet. On est sur des échelles plus petites.
Mais en Espagne, pourquoi pas? En Europe, en général, je pense qu'on arrive quand même à connaître, d'ailleurs, par exemple, si ça arrive en Suisse ou dans des pays proches, qu'on puisse quand même se déplacer et maîtriser. Je pense qu'on, pourquoi pas, on ne se ferme pas des portes de toute façon.
Et puis c'est un enrichissement aussi, je pense. Ici, on a reçu plusieurs jeunes agences comme vous, à peu près dans les mêmes. Il y a une fabrique, notamment. Eux, ils sont plutôt en Autriche. Et il y a cette espèce de double culture qui fonctionne assez bien. Alors, je crois que vous avez une petite équipe. Comment est-elle composée?
Alors, on a une équipe qui est assez internationale, d'ailleurs. On a de toutes les cultures, d'ailleurs, je pense qu'on a des Vietnamiens, des Mexicains, de partout, un peu. On est deux associés, donc on porte nous-mêmes aujourd'hui les projets, même si ça devient de plus en plus compliqué, parce que ça devient un peu plus lourd, l'administratif de l'agence. On a une assistante administrative, une assistante qui gère un peu tout ce qui est appel d'offres et comptabilité. Enfin, c'est un peu notre main droite. Et après, on a deux chefs de projet au sein de l'agence qui portent aussi des projets de marché public ou de marché privé. Et après, on a une équipe plutôt des dessinateurs.
Ils sont architectes quand même.
C'est vrai qu'on est tous des architectes. Mais c'est vrai qu'on est quand même, justement, on a cette ouverture d'esprit. C'est vrai qu'on a une agence, quand on les voit, assez internationale. On a juste deux Français. Non.
Voilà, on est une petite dizaine maintenant.
Oui, c'est pas mal.
Oui, il va falloir qu'on change de locaux d'ailleurs bientôt.
Alors l'avenir?
L'avenir, on verra. Moi, c'est pas un manque d'ambition, mais vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, l'équipement, encore une fois, public, culturel, le format marché public, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et voilà, après, si les projets peuvent être plus complexes, plus grands, et avoir moins de petits projets, plutôt des plus gros projets, c'est bien. Mais voilà, je ne me vois pas très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis on verra, mais...
Non, c'est vrai que l'effet de grandir l'agence, parfois ça éloigne les chefs d'agence du projet, en fait.
Oui,
finalement,
on
devient simplement quelqu'un qui connaît les maîtrises d'ouvrage ponctuellement, mais qu'en fait, on n'a pas le temps de s'investir dans les projets. Je pense que c'est important quand même de garder un peu la main et pas forcément grandir pour grandir. Donc, moi, je suis plutôt garder une échelle où vraiment ça nous permet de pouvoir vraiment s'investir, de participer à la phase conception, participer dans toutes les phases et encore faire des recherches et pas forcément faire de copier-coller, garder une qualité architecturale. Je pense que c'est important.
Ouais, on va essayer de ne pas être trop nombreux pour continuer à faire de l'architecture. Voilà. Parce que on avait fait une formation un jour à l'Ordre des Archis et nous avait dit les archis, vous êtes très bizarres, vous embauchez des archis alors que vous pourriez embaucher toutes les fonctions support pour faire de l'architecture. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que nous, on embauchait des archis, puis du coup, il y a un moment, on s'est retrouvé, Hergé et moi, à faire toute l'administratif de l'agence, et puis on faisait plus trop d'architecture. Et puis, on avait des gens qui faisaient de l'architecture. Et c'est vrai que voilà, on veut continuer à faire de l'architecture, à gérer nous les projets, enfin nous, entre autres, mais voilà, d'être là et pas juste de gérer une agence.
Oui, d'ailleurs, vous avez une communicante, non ?
On a une communicante, oui.
Ouais, ce qui est pour une agence de taille moyenne. Petite moyenne.
Petite plutôt, je dis.
Non, mais petite, ça peut être quand on travaille tout seul, mais. Enfin, 10 personnes, ça commence.
Oui, à être moyenne pour un.
Ouais. Voilà. D'avoir une communicante, c'est formidable, c'est bien. Bravo.
Oui, en fait, on a été lauréat des 40 Under 40 là, cette année. Mmh. Et on s'est dit que c'était le moment pour mettre un petit coup de. Petit coup de boue sur la communication, c'est pas notre fort. Et on s'est dit que c'est épaulé de quelqu'un, Marie-Sophie en l'occurrence.
Attachée de presse.
Attachée de presse, ouais. Pour nous aider à essayer de développer un peu tout ça, ce serait une bonne chose, nous faire plus connaître aux yeux des maîtrises d'ouvrage. Ouais, c'était le bon moment. Voilà. Puis on a pas mal de chantiers qui vont être livrés. C'est un peu une période charnière de l'agence.
C'est livré quand, tout ça ?
On a 3 chantiers qui sont livrés à la fin de l'année. Sur lesquels ça fait 4 ans qu'on travaille déjà. Donc
Bon, et pendant cette période Covid qui a été compliquée, vous avez réussi, ça a peut-être prolongé le temps de ces chantiers, justement.
Oui, c'est pour ça que ça fait... Mmh. Voilà, on a eu des projets qui ont quasiment été ralentis de 1 an et demi, retardés de 1 an et demi avec le Covid. Parce que, comme tout le monde, on était un petit peu handicapé par le fonctionnement, en mairie aussi, ils étaient sous l'eau, hein, vraiment, on les voyait. Ils avaient des urgences qui n'étaient pas du tout dans le suivi des études, des marchés publics. Et on a aussi pas mal bavé de après-Covid, nous, sur les marchés publics. Mmh. On a mis un peu de temps à rebondir, je sais pas trop pourquoi, mais il y a eu beaucoup moins de marchés publics aussi à un moment.
Non, mais on a eu, je pense, le fait d'avoir cette double casquette, je pense que ça nous a permis de justement pas trop demander de l'aide de l'État, presque rien, je dirais. Et les retail, quand même, ça a permis d'avoir un volume encore de travail conséquent, même si c'est vrai que les maîtrises d'ouvrage public, ici, ils étaient tous à l'arrêt, pendant un certain moment, c'était un peu dur, mais on a quand même réussi à passer l'année correctement.
Mmh.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a enchaîné les élections municipales, le Covid et la guerre en Ukraine. Donc c'était 3 freins au projet dans le marché public.
Ouais.
Parce que clairement, les municipales, c'est presque même pire que le Covid.
Oui, oui. Parce qu'en fait, pour nos auditeurs, en fait, tout s'arrête un an avant. Parce qu'on ne sait pas quelles seront les intentions du prochain maire. Donc,
et quand le maire change, il regarde le projet. Et...
Ah bah, ça arrête beaucoup de projets.
Nous, ils sont... On a beaucoup de chance, il n'y en a aucun qui a été arrêté, mais ils ont tous été remis en ballotage. Puisque le nouveau parti, le nouveau maire vient avec un programme qui est budgétisé, avec des projets d'équipement. Et il y en a qui sont en cours d'études, donc du coup, il faut arbitrer.
Puis il y a aussi des maires frileux qui ne veulent pas trop construire.
Ouais. Il y en a qui étaient opposés aussi au projet, qui étaient dans l'opposition avant. Voilà, c'est un contexte politique qui nous dépasse un petit peu.
Mm-hmm.
Mais on a de la chance.
Ça s'est bien passé.
Les nouveaux maires ont gardé nos projets. Donc,
bon.
Voilà.
Bravo. Peut-être aussi que vos projets étaient de taille suffisamment maîtrisables et maîtrisés. Parce que parfois, sur de très gros projets, les enjeux sont différents.
Ouais, effectivement, je pense que les projets qu'il y en a, non seulement à la fois, comme c'est des projets emblématiques souvent en cœur de ville, je pense que le maire, même s'il y a un changement de maire des partis politiques, ils ont du mal à laisser de côté les projets. Parce que c'est des projets qui sont quand même assez attachés. C'est pour les riverains, c'est pas des équipements publics ou des projets de logement très axés. Donc je pense que les gens ils sont attachés. Après, par exemple, on a un projet d'une rénovation d'une halle de marché à Auray. Et c'est vrai qu'on a eu un changement de maire, c'est les partis écologistes, et il a annulé tous les projets qu'il y avait à Auray.
Sauf le vôtre.
Sauf les nôtres. Les nôtres, parce qu'il y a toujours cette rattachement avec l'économie circulaire, un programme qui va bien pour le...
Oui, et puis c'est des équipements qui sont majeurs aujourd'hui, dans les cœurs de ville, pour la reconquête des cœurs de ville, la réhabilité de la halle de marché qui ne fonctionne pas bien, qui est coincée entre la mairie et le théâtre, donc c'est-à-dire vraiment en plein centre d'une jolie ville comme Auray d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc quand le projet est lancé, je pense que quel que soit le parti, à un moment les maires se disent, de toute façon, c'est un projet qui est important pour tout le monde, on doit le faire.
Vous arriveriez à définir votre facture au niveau projet architectural ou retail? Est-ce que vous avez une écriture ou est-ce que vous êtes vraiment dans une approche contextuelle?
Alors, je pense qu'on est quand même assez épuré. Globalement, on essaye de trouver quand même un langage simple, pas faire des choses complexes. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, je pense qu'on a une approche quand même en fonction des lieux. Hein. Je pense qu'on aime bien quand même s'imprégner des lieux, de connaître un peu dans quel site on est et de pouvoir utiliser un des matériaux adaptés. Hein. C'est forcément, on ne construit pas pareil dans le Jura qu'à Pornichet. Et donc, je dirais qu'on est quand même voilà, à la fois épuré et surtout contextuel. Enfin, en tout cas,
ouais, je ne pense pas qu'on ait une écriture architecturale parce que je pense que, comme le dit Angèle, on s'adapte aux territoires sur lesquels on intervient. En tout cas, j'espère presque qu'on n'a pas d'écriture architecturale. Mmh. Voilà, ça dépend du projet, ça dépend du budget, parce qu'il y a des projets sur lesquels la mairie a des grandes ambitions programmatiques, mais le budget ne l'est pas pour autant, et du coup, voilà, il faut faire des projets plus simplement. Et il y a des projets qui sont au cœur de ville, dans des mairies qui ont un peu plus besoin de convaincre les riverains, ou en tout cas qui ont voilà, la volonté de faire un projet, on va dire, plus esthétique.
Bon, il est vrai que ça reste quand même des Milou, on va dire. Là, on a beaucoup de rénovations, c'est vrai que chez Milou, il y avait quand même cette approche de l'existant. Oui. Donc, dès qu'on a de l'existant, les calpinages, les murs, les épaisseurs, etc. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup de rigueur, et je pense que ça vient toujours de l'agence qu'on avait avant.
On a peu de construction neuve. Voilà, oui. Je pense que 80% des projets en marché public qu'on fait, c'est de la réhabilitation et extension, mais ça passe par la réhabilitation. Et ça nous rassure toujours beaucoup de rénover de l'existant et de s'y accrocher. On trouve ça presque plus simple. Enfin, en tout cas, on est plus à l'aise dans l'exercice, je pense, que de partir sur un site vierge.
Ex nihilo et la feuille blanche.
Voilà, ouais. et écrire le paysage.
Voilà, c'est enfin, vous le faites aussi.
On le fait aussi, bien sûr.
Et puis vous êtes dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui on parle énormément de réhabilitation, et c'est bien, parce que fut une époque, il n'y a pas si longtemps, on préférait raser parce que ça coûtait moins cher.
Ouais.
Donc c'est formidable.
On préfère toujours, hein. Souvent la maîtrise d'ouvrage, il faut les convaincre pour garder ses patrimoines. Même si après il coûte plus cher, mais on essaye toujours de conserver un maximum.
Et d'ailleurs, ça arrive plusieurs fois qu'on arrive sur des projets où il y avait une partie de démolition et une partie de réhabilitation. Et on se bat quand même toujours pour tout réhabiliter et utiliser le maximum de ce qui existe. Évidemment, pour les enjeux climatiques qu'on a, il est évident qu'il vaut mieux réhabiliter que tout démolir et tout reconstruire.
Bien sûr. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui?
Ouf. Changer de métier.
Moi, je dirais que...
De bien réfléchir avant.
Non, non, mais c'est un super métier. Mais moi, je dirais que ce qui est très important, la pratique en agence, à côté des études. En tout cas en France.
Mais il paraît que les études sont tellement remplies maintenant qu'ils n'ont plus le temps.
Alors, c'est possible. Ça fait 10 ans déjà que je suis parti de l'école, mais il paraît qu'il y a plus de demandes qu'avant aussi.
Ouais.
Je sais que c'est pas évident, mais on apprend beaucoup de choses à l'école qui sont très importantes. Évidemment, on apprend toute la théorie, et c'est le plus important peut-être, mais on oublie beaucoup, à part en HMO, mais ça vient très tard, de parler de la pratique réelle en agence, la pratique même réelle du métier, en fait, sans parler d'agence. L'accès à la commande, voilà, apprendre qu'on ne fait pas que de la conception. Et pratiquer en agence, je pense que ça apporte en plus beaucoup de complémentarité pendant les études. Donc ça peut être des petits stages, voilà, mais bon, ouais, bon, c'est mon... ou ça peut être une année de césure même. Je pense que faire un espèce de format d'alternance, faire une année de césure pour bosser en agence, je pense que c'est pas perdu.
Bien, un mot de la fin? Un message à faire passer? Autre?
Il faut toujours se battre. Je pense que c'est des études assez nobles et assez complètes. Enfin, en tous les cas, on touche beaucoup de domaines. Et je pense que c'est grâce à nous, en fait, qu'on améliore la vie des gens, finalement.
Ouais.
Grâce à l'architecture qu'il y a, notre paysage.
En tout cas, on sait que c'est important et on essaie de se responsabiliser aussi.
Que l'architecte se réemparre du sujet.
Oui. Je pense que l'architecte ne s'est jamais désemparé du sujet. Il a perdu du terrain et effectivement, je pense qu'il faut le reconquérir. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Enfin, je veux dire, c'est maintenant, quoi. Donc, voilà.
Bon, bah, bravo.
Merci.
Merci pour votre témoignage.
Merci de nous avoir invités.
Je vous en prie. C'était avec grand plaisir. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre série de l'été. Et d'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais. Prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.